Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. De quelle justice parle-t-on? Quelle vérité porte bien ce nom? Ils mettent tous les deux en scène le dialogue d'un juge avec un accusé, l'un dans la postface de son livre « Béton en garde à vue », l'architecte Rudy Ricciotti qui nous rejoindra dans la grande table des idées à partir de 12h55. L'autre dans « Impossible » qui paraît chez Gallimard. C'est un roman philosophique et politique. L'écrivain Éric De Luca est notre invité tout de suite sur France Culture. Pour en parler, à écouter là maintenant ou plus tard si vous le souhaitez, en balade, en vous inscrivant sur le fil des podcasts.
La grande table. Olivia Gesbert.
Un mort au fond d'un ravin. L'accusé a-t-il poussé cet ancien camarade ou simple coïncidence qu'ils se soient trouvés là, tous les deux, dans ces montagnes, l'un et l'autre, au même moment? La victime est un ancien militant d'extrême gauche. Des années plus tôt, il a dénoncé des camarades en échange d'une remise de peine. Un collaborateur de justice pour le magistrat, un traître pour l'homme qui est interrogé. Bonjour Éric De Luca.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Ce sont les premiers mots de Impossible. On écoute.
Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne de la photo que je vous ai montrée.
Je ne la reconnais pas. J'oublie les visages. À plus forte raison des années plus tard. Je ne pourrai que répéter ce que j'ai déjà dit.
Ce n'est pas sûr. Vous pouvez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit avant.
Peut-être. Mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans un train. Je suis interrogé par un magistrat. Vous décidez des sujets, mais moi, je décide si j'ai envie de livrer ou non un souvenir.
Je comprends. Je vous demande tout de même de revenir sur votre journée.
Je me réveille tôt, vers 5h. J'attends 7h pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre. Je me lave les dents. Je sors. Je prends ma voiture. Et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles, en dehors des sentiers battus, pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire du Bandiarak, en Val Badia. C'est un endroit escarpé et dangereux. J'ai laissé ma voiture et j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Capanna Alpina au col de Loccia. À 7h30, il n'y a encore personne. J'ai été étonné de voir quelqu'un plus haut qui me précédait.
Impossible, votre nouveau roman, Éric De Luca, traduit de l'italien par Daniel Valin, paraît chez Gallimard et il sort aussi en CD. Si vous souhaitez l'écouter dans la voix de Denis Podalydès de la Comédie Française, qui est le magistrat et l'homme interrogé, l'accusé, c'est Laurent Natrella. Il nous plonge tout de suite avec ses premiers mots dans cette région d'Italie qu'on imagine... que vous affectionnez, ce Val Badia, cette vallée des Dolomites, où se passe l'action du livre. Action qui est rapportée, parce que c'est la forme que vous avez choisie pour ce roman, Éric De Luca, la forme d'un interrogatoire, celui de l'accusé par un juge, épisodiquement de l'avocat, et puis des lettres écrites de sa cellule par l'accusé à son amoré mio, à son grand amour. Deux modes narratifs, d'un côté l'échange subi et maîtrisé, de l'autre la confidence. Vous placez le lecteur où ? Au milieu du guet, entre deux sceptiques.
Bon, je raconte une histoire. Je ne sais pas où va se mettre le lecteur. Et aussi, moi, en tant que lecteur, je décide où me poser à l'intérieur d'une histoire que je lis. Donc, je n'assigne pas des places.
Vous en créez.
Mon espoir est de tenir compagnie avec une histoire. Et dans ce cas, c'est une histoire qui a la forme du dialogue et des lettres. Et le dialogue, c'est une forme ancienne de littéraire et aussi philosophique. Et ça, c'est le seul côté philosophique de mon histoire. Parce que c'est le format dialogue qui reprend une tradition philosophique, mais le texte et mon histoire n'est pas philosophique du tout, à mon avis. Donc, parce que je ne suis pas philosophe, je n'arrive pas à philosopher avec moi-même et avec l'extérieur. Mais le dialogue, c'est un format qui permet d'être sur les deux côtés des barricades. Placé avec un sentiment d'égalité et d'équanimité, d'habiter les deux parties et sans prendre choisir une position privilégiée. Donc ça m'a plu de rendre égale une condition humaine qui n'a pas d'égalité, mais est une condition de nette infériorité. Un accusé, qui est une personne privée, un citoyen, qui se trouve face à l'État en personne. L'État en personne,
son incarnation, qui le juge.
Un magistrat qui l'interroge. Donc, ce n'est pas une condition d'égalité. Mais, à travers le format dialogue, on peut réaliser une parité d'arguments et de soutien d'arguments des deux côtés. Et après, il y a des lettres. Oui, les lettres d'amour qui, pour moi, sont des vraies lettres que j'adresse à une femme, mais qui font le service d'expliquer quelque chose du souffrant de cet homme incarcéré, de cet homme qui a déjà purgé dizaines d'années après les condamnations pour la lutte clandestine et la lutte armée. Et qui est revenu libre. Et maintenant, il se retrouve, 40 ans après, face à cette accusation et face à la coïncidence de sa part, de la rencontre, de la coïncidence d'être sur la même vire, très dangereux, un endroit très dangereux, avec celui qui l'avait accusé.
Voilà, c'était un militant d'extrême gauche. Il a le sentiment d'avoir réglé sa dette, puisqu'il a déjà payé de ses années en prison, et il y retourne à la faveur de ce fait d'hiver qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il est dans les montagnes à ce moment-là, avec l'homme qui les a dénoncés, lui et ses camarades, des années plus tôt. Et cet homme va être donc retrouvé dans le ravin, et c'est même lui qui va prévenir les secours de la présence de ce corps qu'il n'aurait pas identifié. Évidemment, tout prête à croire qu'il est celui qui l'aurait poussé dans ce ravin. Et c'est donc autour de ça que va s'ouvrir ce dialogue avec le magistrat, cette incarnation de l'État, comme vous le dites, Éric Deluca. Je n'ai rien contre ce magistrat. Avec moi, il tente un dialogue à la Socrate, écrit notre prévenu. Il veut être l'accoucheur de la vérité, réminiscence scolaire, l'art de la maïeutique. De sa cellule, il va livrer ses impressions à sa confidente, à son amoureuse. Vous croyez, vous, en la force du dialogue dans la vie aussi, Éric Deluca?
Oui, c'est la forme de la civilisation, le dialogue, parce que il y a des possibilités, il y a une conversation qui prétend, de l'autre côté, pas tout simplement le silence de la politesse, mais l'écoute. L'écoute pour après relancer la position et avancer dans le débat. Donc c'est un format majeur de la connaissance humaine et de la progression de l'intelligence humaine. J'aime ce format comme lecteur. Je l'aborde comme écrivain, mais avec un sentiment d'imprécision et d'improvisation. Parce que je ne l'avais pas imaginé comme ça, d'abord. L'histoire s'est produite tout directement sous forme de dialogue. J'ai commencé du début, comme les mots de la lui par les acteurs. Exactement là, j'ai commencé et je suis arrivé jusqu'à la fin en entremettant les lettres. Les lettres qui expliquent pourquoi une personne qui se trouve dans l'isolement écrit des lettres. Écrit des lettres pour convoquer des absents. Quand on écrit à une personne, pas on tape sur l'ordinateur, mais quand on écrit, on écrit matériellement avec le stylo sur le papier. Bon, ça, c'est un acte magique qui permet de se trouver face au destinataire ou à la destinataire.
Il y a justement, Éric de Luca, toute une littérature de prison. Hein. Et là, il écrit de sa cellule à son amour, hein. De Gramsci à Nelson Mandela. Il y a toujours ces lettres qui sont adressées, mais pas toujours envoyées à leur destinataire. Et un prisonnier, accusé ou condamné, qui sait qu'il ne doit pas trop se dévoiler dans ses lettres, parce que d'autres yeux pourraient les lire que ceux de là ou du destinataire de ces lettres. Est-ce que cette littérature de prison, telle qu'elle existe aujourd'hui, vous a aussi inspiré pour l'écriture de ce livre ?
Parce que je suis quelqu'un du XXe siècle. Et le XXe siècle a été le siècle qui a incarcéré le nombre majeur de vies humaines dans des camps de concentration et de réclusion. Et donc, le format littéraire de ce siècle carcéraire sont les lettres. Les lettres sont le format littéraire et aussi l'archive historique du XXe siècle. Et alors, la lettre a une... J'ai continué à écrire lettres jusqu'au moment où est arrivé l'ordinateur. Donc, pour la grande partie de ma vie, j'ai écrit des lettres. Maintenant, je continue à écrire des lettres à certains prisonniers qui sont encore là dans les détentions, parce que la seule manière de communiquer pour un prisonnier, pour un détenu, est celle d'écrire des lettres. Et les mettre dans une enveloppe et les confier à un moyen de transport. C'est un moyen ancien. Ça aurait plus vite faire avec les pigeons, voyager. Mais les lettres sont un format concret de... La seule possibilité de... franchir les murs et les barreaux.
Vous avez-vous été incarcéré dans votre vie, Éric de Luca ?
Brèvement, avec beaucoup d'autres dans les années de première année de à la fin des 70, 79. 69, c'était des manifestations, on venait rafler, donc on passait quelques passages.
De sa cellule, votre prisonnier interroge la liberté. Pour moi, la liberté n'est pas de pouvoir aller me promener, mais de garder ensemble les mots pour toi et leurs conséquences. Il s'adresse à son amoureuse. Je te dis que je t'aime et je le fais continuellement. La liberté, c'est de nous garder ensemble, même là-dedans. Aucune cellule ne peut m'enlever cette liberté. Cette liberté qui serait pour lui, et peut-être pour vous aussi, Éric de Luca, affaire de mots. C'est comme ça aussi que le formule l'écrivaine, journaliste, turque Asli Erdogan.
It takes a lifetime to discover.
Il faut une vie entière pour le découvrir. En fait, c'est en prison que j'en ai le plus appris sur la liberté. C'est là que j'ai écrit « La liberté est un mot qui ne peut être réduit au silence ». Et je continue de chercher, c'est pas facile. Ne pas être en prison, bien sûr, ne signifie pas être libre.
Ne pas être en prison ne signifie pas être libre, dit Asli Erdogan, que vous avez rencontré il y a 2 ans encore en France. Vous avez eu un échange, un dialogue peut-être aussi autour de cette question de là ou des libertés. Est-ce que vous diriez que la liberté, comme Asli Erdogan, est un mot qui ne peut être réduit au silence ? C'est la seule chose qu'on ne peut pas réduire au silence.
Oui, la liberté ne peut pas être réduite au silence et ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes qui se trouvent dans cette condition de privation de la vie privée, réduite à des nombres dans une cellule. Donc, pour moi, la liberté n'est pas à disposition de n'importe quel État qui peut priver moi-même de la liberté. Ma liberté est au dehors de la possibilité d'être atteinte par une incarcération. Parce que pour moi, la liberté consiste dans le tenir ensemble ce que je dis et ce que je fais. Et alors, une incarcération, comme pouvait être celle que j'ai côtoyée pendant mon procès pour le soutien de la lutte de la Val de Susa, l'incarcération aurait plutôt souligner ma liberté et non pouvoir me l'empêcher ou me la réduire.
Et la littérature, vous la définissez comment, justement, par rapport à cette question de la liberté ? Est-ce que vous diriez que c'est aujourd'hui le seul espace de liberté ou de vérité ?
La littérature, c'est une belle manière de se tenir compagnie et de se faire tenir compagnie. Mais dans des conditions spéciales, où le droit de parole est nié, alors la liberté, la littérature a aussi une fonction de libération et de résistance à l'oppression. dans des conditions, donc, que, comme je disais, de suppression de la liberté de parole. Alors là, la littérature et la parole a un argument majeur et a une nécessité majeure. Donc c'est la littérature est une forme de résistance et de combat dans certaines occasions. Il y a la poète Anna Akhmatova, non? Un poète russe qui se trouve dans une ligne qui de parents des détenus et des proches des détenus qui sont en attente de rentrer dans la prison pour voir
les en visite.
Ils sont là depuis des heures. Autour d'eux, il y a l'hiver russe. Et ils ne savent jamais s'ils seront admis à la visite ou s'ils seront renvoyés. Et donc là, dans cette attente gelée et muette, une femme qui écoute qu'il y a Anna Akhmatova derrière elle, la poète, lui dit « Mais ça, vous pouvez le décrire ?» Et Anna répond « Oui, mogu. » C'est un russe qui dit « Mogu, je peux. » Ça veut dire que, à part la bouche d'Anne, la littérature s'engage à répondre à la question de cette femme. Elle peut décrire ça? Oui, elle peut le décrire. La littérature est à l'auteur de la description demandée par la femme.
Quel pouvoir! Éry de Luca dans Impossible, qui paraît chez Gallimard, à vous lire, l'écrivain ne devrait croire en rien s'il veut quand même approcher la vérité. Vous évoquez cette affaire, celle de Leonardo Sciascia, l'auteur de l'affaire Moro, du nom du chef de la démocratie chrétienne, Aldo Moro, assassiné en 78, enlevé par les brigades rouges le jour où il devait signer un compromis politique, historique. En quoi ce livre de l'écrivain Leonardo Sciascia, sa démarche est-elle critiquable pour vous? En quoi, dans les choix qu'il a faits, il n'a pas pu ou pas réussi à percer le mystère Moro?
De Moro, il n'y a eu aucun mystère. Ils ont tout découvert, ils ont tout mis à la lumière, ils ont identifié les personnes, les responsables, ils les ont condamnés, incarcérés. De ma part, je ne trouve aucun mystère. Non, donc, Sciascia était un écrivain. Et l'écrivain est quelqu'un de solitaire, d'individuel. Et quand on fait partie d'une commission de l'État, on perd le statut d'écrivain. On devient un citoyen. Et en tant que citoyen, il doit participer comme tel. Ne peut pas extraire des considérations littéraires de son engagement dans une commission parlementaire. Donc ça c'est un dérapage pour moi et qui le rend critiquable. Moi, que je suis un lecteur enthousiaste de Sciascia.
Voilà, c'est ce que vous dites. Au lieu d'être resté sur la barricade, il a basculé d'un côté ou de l'autre et il a perdu son statut d'écrivain parce qu'il a choisi son camp. Oui. La justice des hommes reprend tous les codes de la justice divine à vous lire. Hein. Il est question dans Impossible, Éry de Luca, et dans cet échange entre le juge et l'accusé, il est question de vérité, il est question de repentance, il est question de pénitence, comme l'accusé. Est-ce que vous pensez du coup que l'écrivain doit rester aussi laïque en toutes circonstances?
Laïque, oui. Laïque et loyal avec l'histoire et les raisons qui le poussaient à écrire cette histoire.
C'est-à-dire laïque, y compris envers l'État, comme l'accusé du livre, qui dit ne pas partager les liturgies de cette croyance, hein, de ceux qui partagent cette croyance, cette fiction qu'est l'État.
Oui, c'est une distance indispensable, nécessaire. Et sinon, on risque de faire une espèce de récit pour arriver à une thèse, à une démonstration de quelque chose. Alors là, ça, moi, comme lecteur, je ne l'apprécie pas. Et quand le récit dérape vers l'essai, vers la thèse, vers quelque thèse à démontrer. Donc, la vérité est la vie telle qu'elle. Elle n'est pas démontrable. Il n'y a pas une thèse pour la coincer dans une définition.
Éry de Luca, écrivain, romancier italien est notre invité jusqu'à 12h30 à l'occasion de la parution de son Impossible, son nouveau roman, traduit en français chez Gallimard.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
De cet album qui vient d'atterrir dans les bacs, celui de la chanteuse malienne Oumou Sangaré, Kamelemba, c'est le titre de cette musique. L'album a été enregistré en une seule prise. Il est à écouter dans son intégralité, si vous le souhaitez, dès maintenant. Il est midi 23 sur France Culture avec nous, Éric De Luca, à l'occasion de la parution de son roman Impossible. C'est le roman de la maturité, celui d'un homme qui observe la cime des montagnes, qui médite en marchant, celui d'un homme qui regarde si ses anciens engagements interrogent les hasards de la vie. C'est un peu vous, et même beaucoup de vous, qu'il y a dans ce livre aussi, Éric De Luca. Ces années de plomb, cette période à part de l'histoire italienne, vous avez vous-même été militant révolutionnaire, vous l'évoquiez, vous avez vous-même été rapidement incarcéré. Est-ce qu'on vous demande encore souvent de raconter ces années? Est-ce que vous avez le sentiment encore de devoir vous justifier de ce passé-là?
Non, je ne dois pas me justifier, mais j'ai resté loyal avec les raisons de mon engagement et de l'engagement de cette jeunesse politique de l'époque.
Et la principale raison, c'est ce mot de fraternité, ce beau mot que vous répétez dans ce livre aussi.
La fraternité, c'est une condition de départ. Si on n'a pas ce sentiment de fraternité, on se lie avec, s'il n'y a pas ce lien qui forme une communauté, alors il n'y a pas possibilité de se battre pour la liberté et l'égalité. Non, la liberté, égalité, fraternité sont ces trois mots de la Révolution française. Mais pour la liberté, pour l'égalité, on peut faire des luttes pour la obtenir ou pour la garder si elle est menacée. Mais la fraternité, qu'est-ce que c'est la fraternité? On ne peut pas se battre pour la fraternité. Non, la fraternité, c'est la condition qui permet à une communauté de se battre pour la nécessité d'une liberté ou d'une égalité.
Vous disiez au début de notre entretien que l'échange était inégal, parce que l'un incarnait l'État, le juge, l'autre était l'accusé. Or, au fil de l'échange, l'accusé va se montrer peut-être plus rusé, plus sage que le jeune magistrat qu'il a face à lui. Au fil des échanges, la figure de probité, celle du juge, va petit à petit se fissurer. La justice, semblez-vous dire, est une institution nécessaire, mais elle est humaine, elle est donc faillible, comme nous tous. Et ce juge, il a l'âge d'être son fils. Il va s'obstiner à le faire avouer un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Mais au-delà des faits, qu'est-ce qui les sépare? Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est un siècle, voire peut-être un monde tout entier qui les sépare?
Un siècle, nettement les sépare. Ce juge a un déficit face à son accusé. Il est plus jeune et donc il ne connaît pas l'histoire des années de la militance révolutionnaire. Et en plus, il n'est jamais allé en montagne, il ne connaît pas la montagne. Et donc, il se trouve un ancien qui a cédé compétences. Et il est attiré aussi vers cette connaissance. Il se fait convaincre par l'accusé de réellement aller en montagne. Aller en montagne, ça veut dire qu'il voulait explorer le lieu de l'accident ou du meurtre avec un drone, non? Mais il lui dit non. Si vous n'allez pas là, si vous ne mettez les pieds et votre poids et les pieds sur ce terrain friable, sur ce terrain dangereux, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Et il se fait convaincre. Et il vraiment fait l'expérience d'aller sur l'endroit et il fait l'expérience de se faire renseigner personnellement sur les motivations personnelles d'un militant révolutionnaire. Donc il y a ce côté aussi intellectuel, de requête et d'enquête intellectuelle à côté de l'enquête judiciaire. J'ai eu beaucoup d'occasions de parler avec des juges, et pas des questions si généreuses comme celles que je reçois maintenant. Vous m'interrogez pour avoir pour savoir quelque chose de l'histoire de moi. Mais quand un juge m'interroge, il ne veut pas savoir quelque chose de moi. Il veut trouver confirmation de son hypothèse d'accusation. Il veut trouver confirmation de ce qu'il prétend de savoir déjà. Donc ça, c'est la condition d'infériorité. Mais là, l'infériorité dans cette histoire est basculée parce qu'il y a une condition d'infériorité aussi du juge face à l'accusé.
Et quand vous marchez, parce qu'il y a des très très belles pages dans ce livre aussi sur la montagne, sur la marche, que vous avez beaucoup pratiqué, on le sait, et que vous pratiquez sûrement encore aujourd'hui. Quand vous marchez, comme votre personnage, peut-être vous marchez droit devant, concentré. On imagine que vous regardez pas souvent en arrière, alors que l'écriture est peut-être ce lieu qui permet de revisiter un peu son passé, d'avoir toujours deux yeux derrière la tête. Merci beaucoup à vous, Éric Deluca, d'avoir été avec nous pour cette première partie de La Grande Table. Vous serez ce week-end au MK2 Bibliothèque à Paris pour une grande rencontre le 18 et le 19 et le 20, 3 jours en votre compagnie, et notamment pour y présenter un film, Happy Times, de Michael Meyer, dont vous êtes le producteur. Nouvelle casquette. C'est ça ? Vous
irez
défendre ce film,
oui.
Et qui sera présenté là-bas en avant-première. Pour ceux qui sont à Paris, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.